olympique s'est brisé pour la deuxième fois de suite après Stockholm en 2003. Une catastrophe pour cette génération talentueuse qui a tout simplement loupé son euro comme si elle y avait été mal préparée. Un gâchis énorme pour ces joueurs qui n'auront peut-être plus l'occasion de participer à des Jeux olympiques. En 2012, Parker et les siens auront la trentaine et seront fatigués par 5 saisons américaines supplémentaires. En Espagne, le basket français a sans doute perdu une occasion unique de se dessiner un avenir radieux. Madrid, Fabrice Rigobert, France Inter.
Et c'est ainsi aujourd'hui tout fini par les regrets. Il est 13h29.
Mon contrat d'assurance vie est-il trop cher ?
C'est souvent le cas et pas toujours indiqué clairement. L'affaire a donc créé pour plus de transparence le premier comparateur d'assurance vie. Je vous propose de découvrir ses résultats surprenants et de rejoindre les 700 000 adhérents de l'affaire.
C'était Bénédicte Coste, présidente de l'affaire. Rendez-vous sur afer.fr et profitez de la baisse des frais d'entrée jusqu'à moins 66%.
13h30, tout juste pile. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Fabrice Douel.
C'était pour vous mettre de bonne humeur. Donc 2000 ans d'histoire, aujourd'hui vous nous montrez la voie.
Oui, la voie de la Calas, 30 ans après sa mort. D'art et d'amour, je vivais toutes, sans faire le mal aux longues maroutes. Tosca, acte 2. D'histoire. Avant de mourir à Paris le 16 septembre 1977, sur un livre de prière qu'elle portait toujours sur elle, la Calas avait écrit ces quelques vers d'un opéra de Ponchielli. Suicide, dans ces moments cruels, tu es ma seule issue et tu tentes mon cœur, le dernier appel de mon destin, la dernière croix. Mais de ces quelques mots de la Gioconda, la Calas n'avait pas voulu écrire le premier qui lui faisait peur, suicide. La Calas s'est-elle suicidée ou est-elle morte d'une crise cardiaque, comme l'affirmait le certificat de décès? Personne ne l'a jamais su. Ce jour-là, on préférait se souvenir de celle qui avait prêté une voix incomparable au plus beau personnage de l'opéra. La Norma de Bellini, la Tosca de Puccini, la Lucia de Donizetti ou la Violetta de Verdi. Mais si pendant plus de 20 ans, la Calas a rempli les salles des plus grands opéras du monde et elle est une de la presse à sensation, ce n'était pas seulement pour sa voix. C'était aussi pour son destin, aussi tragique que les opéras qu'elle aimait, jusqu'à sa mort il y a exactement 30 ans. France Inter, Jacques Chabot, le 16 septembre 1977.
Bonsoir. La Calas est morte à 53 ans. Rien ne laissait supposer une fin aussi brutale. La célèbre cantatrice est décédée, semble-t-il, d'une crise cardiaque à son domicile parisien, avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement. Elle ne s'était plus produite sur une scène depuis 1973.
Je veux remercier tout ce public qui a su être près de moi dans des moments difficiles, pas seulement dans la gloire. Ils m'ont écrit, ils m'ont adoré, ils m'ont compris, généralement ils m'ont aimé.
Bonjour.
Bonjour Patrick.
On entend la Calas dans un des opéras qu'elle préférait, Norma, qu'elle chantait ici en 1949 à Turin. Vous le rappelez dans sa biographie qui vient d'être rééditée chez Payot. À l'époque, elle avait 26 ans et elle commençait à peine à être connue. La gloire n'est venue qu'assez tard et après des années de galère, une enfance malheureuse et surtout, ce qui la caractérise le plus peut-être, une enfance déracinée.
Oui, totalement. Maria Kalogeropoulos, puisque tel était son nom, et la fille de Grecs qui ont émigré aux États-Unis, à New York. Donc elle naît à New York. Sa langue maternelle finalement va être l'anglais. Elle va retourner à 14 ans en Grèce avec sa mère au divorce de ses parents et elle se découvre une deuxième langue qu'elle maîtrise finalement très peu, qui est le grec. Elle va ensuite faire sa carrière en italien et finir sa vie en français. Donc c'est assez curieux, il y a un trouble identitaire dans la vie de Maria Callas avec l'absence de véritable langue maternelle. Elle vit en quatre langues.
Et une enfance assez malheureuse, notamment auprès d'une mère qui a été insupportable. Je crois qu'elle a refusé de voir sa mère pendant les 25 dernières années de sa vie.
Oui, la relation avec Evangelia était terrible. Vous savez, elle avait eu un fils avant Maria. Ce fils est mort, elle a espéré avoir un autre fils ensuite. Et c'est Maria qui est née. Et les premiers jours de la naissance, elle a refusé de voir sa fille. Et je pense que toute leur histoire a démarré comme ça, sous des auspices assez, assez terribles. Et en fait, Evangelia est un personnage complètement frustré, aigri, qui rêvait d'un grand destin qu'elle n'a pas eu. Et donc, elle a reporté comme ça tous ses espoirs sur sa fille. Et c'est quelqu'un qui fonctionnait dans le chantage affectif, ce que Maria Callas, qui avait un tempérament bien trempé, refusait. Et c'est vrai qu'à partir de 51 à Mexico, elle se fâche définitivement. Evangelia la menace de révéler des choses un peu sulfureuses. Et à partir de là, elles ne se verront plus les 25 dernières années de la vie de Callas.
Autre souffrance, David Lelo, c'est le fait que cette femme, cette jeune fille plutôt, quand elle était à New York et encore jusqu'à un certain âge, qui a été sans doute la plus belle cantatrice qu'on ait jamais vue au XXe siècle, était une jeune fille extrêmement laide.
Oui, en fait, il y a eu beaucoup de crises de boulimie, des périodes difficiles de son enfance et de son adolescence qui ont fait qu'elle a reporté comme ça ce manque d'amour et d'attention de la part de sa mère par la nourriture. Et c'est vrai que à 18 ans, 20 ans, elle n'est pas loin de peser 100 kilos. Mmh. Donc effectivement, elle est disgracieuse. On dit qu'elle est assez velue aussi. Enfin, elle a une apparence physique qui est assez terrifiante.
Alors si c'est sa mère qui l'a poussée à chanter, c'est à une autre femme, Elvira de Hidalgo, que la Callas doit sa voix, Elvira de Hidalgo, à laquelle la Callas a été reconnaissante toute sa vie.
J'ai eu de la chance, ça, sûrement c'était le destin, que j'ai eu comme professeur Madame de Hidalgo, Elvira de Hidalgo, qui a fait une très grande carrière. Et alors j'ai eu la base très bonne de la vieille école, comment chanter le bel canto, comment préserver la voix. On n'a jamais assez de leçons de ce genre-là.
Parfaite.
C'est-à-dire ?
Docile. Intelligente, travailleuse, ça, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de le répéter une phrase, deux fois. Je disais, oui, capito. Je dis, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout, tout.
Dans ces moments cruels, tu es ma seule issue. Ce sont les mots que l'on a retrouvés sur le carnet de la Callas le jour de sa mort. C'était un extrait de la Gioconda qui a été en 1947 le premier grand succès de la Callas, David Lelio. Et grâce en partie justement à cette femme dont on a entendu la voix, Elvira de Hidalgo, qui a joué un rôle considérable dans la carrière de la Callas.
Dans la carrière évidemment et dans la vie. C'est vraiment devenu la maman de substitution. C'était cette femme qui était le modèle absolu pour Maria Callas. Et Elvira de Hidalgo raconte qu'elle n'avait jamais vu un empressement au travail de tel. Maria arrivait le matin, repartait le soir du conservatoire. Elle restait toute la journée à écouter les autres voix. Ce qui fait qu'à un moment de sa carrière, au début, à 20-22 ans, Maria Callas connaît tous les répertoires, toutes les partitions, tous les registres. Elle sait chanter les ténors, les barytons, parce qu'elle a tout appris par cœur à force de s'imprégner de ce qu'elle a vu. C'est une mémoire colossale.
Ça, c'est une grande particularité de la Callas, justement, c'est oui. Cette façon de changer comme ça de registre oui. Pendant le chant, ce qui d'ailleurs posait des problèmes, notamment un problème de passage, quand elle passe d'un répertoire à l'autre, qui a été assez difficile, qui a été critiqué, même on disait qu'elle n'était pas capable
oui,
de le faire.
Oui, parce qu'elle a trois voix, elle a trois registres, un registre grave, un registre médium et un autre aigu, et effectivement, les passages de Callas Callas était réputé pour être assez aigre, assez dur. Donc on lui a souvent reproché ça. Mais elle avait une vérité dramatique que personne d'autre n'avait.
Autre chose qui la distingue, vous le soulignez bien, David de Lelios, c'est le fait que, contrairement à beaucoup d'autres cantatrices, elle ne se contente pas de chanter sur scène, elle joue les rôles qu'on lui confie.
C'est ça, c'est une comédienne. Déjà, elle va ressusciter un registre qui n'existe plus, c'est le bel canto, ces opéras véristes comme Tosca, Norma, etc., Traviata, ça nous paraît aujourd'hui très très évident. Mais Callas leur redonne vraiment un éclat que ces registres n'avaient plus. Et effectivement, c'est une vraie comédienne. C'est quelqu'un qui pénètre ses rôles et qui a un sens inné de l'art dramatique.
C'est peut-être ce qui explique aussi ces rapports très chaleureux, très amicaux qu'elle a eu avec un grand du cinéma qui était Visconti. C'est Visconti qui a mis en scène un certain nombre d'opéras de Callas.
Totalement, toute l'histoire de Callas à la Scala est liée à Luchino Visconti. C'est une relation qui est professionnelle, artistique, vraiment très très forte, mais qui est aussi une profonde histoire d'amitié et même d'amour, puisque on sait très bien que Maria Callas était profondément éprise de Luchino Visconti et elle ne comprend pas qu'il est homosexuel. C'est quelque chose qui, dans sa mentalité conservatrice, traditionnaliste, etc., ne pouvait pas rentrer. Et le jour où elle comprend qu'il préfère les garçons, c'est un choc terrible pour elle, parce qu'elle était profondément éprise.
Autre Pygmalion qui deviendra son mari, hein, Battista Meneghini. Alors c'est un industriel de Vérone, il est passionné d'opéra, il devient fou de la Callas quand il la rencontre, et il va l'épouser. Il est son impresario, en fait.
C'est ça, c'est un marchand de briques, comme vont dire les gens qui le détestent, et qui va faire effectivement de Maria Callas véritablement un produit, puisqu'il va discuter vraiment avec âpreté tous ses contrats, et c'est souvent à lui qu'on va devoir la réputation de tigresse de la Callas, parce qu'il est tellement dur en affaires qu'on a l'impression que c'est Callas elle-même qui discute ses contrats, mais en fait non, c'est lui, et il est très dur, et effectivement il va réussir à la faire exploser. C'est un peu Céline Dion et René Angélil, quoi. Il y a cette relation comme ça de Pygmalion.
Ça commence en tout cas à Vérone en 47 avec la Gioconda, oui, justement, que l'on a entendu. Ça va se poursuivre sur le plan international. D'ailleurs, avant les grands succès italiens, c'est en Amérique du Sud qu'elle va devenir une chanteuse internationale.
Oui, tout à fait, puisque elle se marie, et quelques jours après elle part en tournée en Amérique latine, et elle part au Mexique, en Argentine, au Brésil, et ça va être un immense succès effectivement aux États-Unis, en Amérique latine, avant les États-Unis et avant l'Europe.
Et avant de connaître le temple de l'art lyrique, la Scala de Milan, où la Scala se fait un triomphe en 1955, 3 ans après en avoir ouvert les portes.
Enfin, à la Scala, je suis arrivé le 52, si je ne me trompe pas. Nous avons ouvert la Scala avec le Vespri Siciliani. Dans cette saison, j'ai fait aussi Norma, Enlèvement de Sarai. C'était un très grand succès, disons, je ne peux rien me plaindre. L'année encore suivante, on a fait Macbeth et je ne me rappelle plus quoi d'autre. Enfin, c'était depuis alors, c'était la lune de miel, disons, avec la Scala.
Thank you.
C'était La Calas, enregistrée en 1955, faisant un triomphe avec cette Traviata devant le public le plus difficile du monde. La Scala de Milan, c'est évidemment l'Everest, en fait, l'équivalent de l'Everest pour les alpinistes.
Bien sûr, c'est le temple et c'est un rite de passage, vraiment. Se produire à La Scala, c'est la porte ouverte pour le monde entier. Et puis c'est très difficile. Il y a des antagonismes entre les fans d'une artiste ou de l'autre. Et on va arriver dans cette décennie, comme ça, des années 50, avec les duels entre Calas et Tebaldi.
Alors voilà, ça c'était effectivement, non pas la grande rivale, c'était celle qui régnait sur l'opéra dans le monde entier, la Tebaldi.
C'est ça.
C'était la Calas d'avant la Calas, si je puis dire. Et là, il y a eu des conflits entre elles. C'était un peu aussi l'équivalent de ce qui était dans le cyclisme. Vous vous souvenez de ces polémiques entre les partisans de Coppi et ceux de Bartali. C'était ça, au fond, dans l'opéra, la Calas ou la Tebaldi.
Mais en fait, c'est exactement ça. Elle remplace en 1950 Renata Tebaldi dans Aïda. Et Tebaldi va perdre sa place. Calas va faire des tels triomphes qu'à partir de 51, elle devient 51-52, elle devient la star absolue de la Scala. Et non sans difficulté, parce que il va y avoir des scènes.
Il crêpait le chignon.
On lui envoyait même un jour, on lui envoyait une botte de radis. Et comme elle était très myope, elle a serré la botte de radis comme ça contre son sein, pensant que c'était un petit bouquet de fleurs. Et en fait, c'était une botte de radis. Donc il y avait des trucs d'une violence. On s'insultait, on se crêpait le chignon à la sortie du théâtre.
Les années 50, c'est les années de la Calas à la Scala, mais c'est aussi les années où, en 2 ans, elle fait un régime draconien. Elle perd une trentaine de kilos en 2 ans. Elle passe de 95 ou 100 kilos pratiquement à 65.
Complètement. Et elle devient absolument sublime. On n'a jamais su exactement comment elle avait maigri. Il y a eu énormément de rumeurs, on a dit que Meneghini lui avait fait avaler un verre solitaire, on a dit beaucoup de choses, mais toujours est-il qu'elle devient une véritable sylphide avec ce look un peu Audrey Hepburn à un moment, très belle,
magnifique,
une silhouette de sirène qu'on ne connaissait pas vraiment dans l'art lyrique jusque-là, puisque on avait toujours dit que pour avoir une bonne voix, il fallait avoir une bonne cage thoracique, et pour avoir une bonne cage, il fallait avoir un gros bidou et une grosse envergure. Donc on pensait
La Castafiore, voilà.
Ben, les Montserrat Caballé, etc. Et on pensait qu'elles étaient des bonnes chanteuses, qu'elles avaient du coffre. Et en fait, Calas, elle va prouver que c'est possible d'être mince. Mais on va lui dire qu'elle a perdu sa voix parce qu'elle a maigri. Alors que c'est complètement faux, puisque les plus belles années de la carrière de Calas sont ces années où elle a maigri, justement.
Elle devient la prima donna soluto, elle prend confiance en elle, d'ailleurs au point de provoquer un des plus grands scandales de l'histoire de l'opéra. C'était le 2 janvier 1958 à l'Opéra de Rome, où elle s'arrête, où la Calas s'arrête de chanter après le premier acte de Norma.
Per causa di forza maggiore, la rappresentazione è sospesa.
Erano tutte le premesse per uno spettacolo d'eccezione alla serata inaugurale del Romano Teatro dell'Opera. Si sarebbe eseguita la Norma e sublime soprano sarebbe stata Maria Meneghini Callas.
L'émeute gronde à Rome, parce que jeudi soir à l'Opéra de Rome, pendant la représentation de la Norme, au deuxième acte, une voix chère s'est tue. Une voix très chère, 1 million par représentation, celle d'une certaine Maria Meneghini, plus connue sous le nom de la Calas. Mais la soprano assoluto a tant et tant de fois défrayé la chronique, giflant ses partenaires ou ses adversaires, leur lançant ses souliers à la face en guise d'argument, se jetant dans la fosse d'orchestre pour s'expliquer avec un musicien, qu'un caprice de plus n'étonnerait personne. En tout cas, la Calas a réussi une belle opération de presse, 4 colonnes dans tous les journaux consacrées à une chanteuse parce qu'elle n'a pas chanté. Il y a de quoi vous laisser sans voix.
Norma, que Calas justement s'est arrêté de chanter après le premier acte en 1958. Jamais on n'avait vu ça, c'était un vrai scandale, un caprice, disait même le journaliste que l'on vient d'entendre.
Mais en fait, ce qui a été d'autant plus terrible, c'est que le président de la République, Bronchi, était présent à la représentation et qu'elle ait refusé de terminer cet opéra en présence du président de la République italienne, c'était un crime de lèse-majesté. Mais il faut comprendre que Maria Callas n'était pas du tout la tigresse et la capricieuse qu'on peut imaginer. C'est quelqu'un qui avait une exigence absolue de perfection. Et si elle sentait qu'elle n'allait pas rencontrer cette perfection, Elle refusait de chanter. Et là, elle avait pris un coup de froid. Elle explique très simplement. Il y a une interview qu'elle a donnée le 7 janvier, cinq jours après, où elle dit je n'avais plus de voix, je ne pouvais pas chanter. Donc elle préférait ne pas se produire plutôt que de mal chanter.
Et oui, elle devient d'ailleurs la proie des journalistes. On voit qu'ils ne sont plus très tendres avec elle, qu'après les années où on fait l'éloge de la Callas, voilà que brusquement, on lui trouve des tas de défauts. Il y en a un, par exemple, qui a été souligné. C'était les rapports qu'elle avait avec sa mère. On lui a reproché d'être une fille ingrate, d'avoir abandonné sa mère.
Oui, tout à fait. À partir de 51, quand elle se fâche à Mexico, elle décide de ne plus la revoir, elle décide de ne pas subvenir à ses besoins. Elle estime qu'elle a suffisamment souffert. D'un autre côté, elle a la sagesse de ne pas dire précisément ce qu'elle a vécu dans son enfance. On le saura bien plus tard. Elle a eu une enfance difficile, elle lui en veut. Il y a cette rancœur qui fait qu'elle refuse absolument de lui donner de l'argent. Elle refuse ce chantage. Donc effectivement, elle va passer pour une tigresse. Mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui a une rigueur absolue avec elle-même et également avec les autres. Donc on va faire passer ça comme ça sous des effets de caprice. Et finalement, Callas fait vendre du papier. Donc on invente des tas d'histoires. Aujourd'hui, on se rend compte avec le recul que la majorité des scénarios qui étaient échafaudés par la presse populaire étaient faux. Il faut savoir quand même que Callas est la première chanteuse lyrique à faire la une de France Dimanche ou de magazines comme ça. C'était impensable. Elle est devenue une héroïne pop comme pourrait l'être aujourd'hui Madonna ou Britney Spears.
Oui, mais justement, que lui reprochent les puristes, c'est finalement de plus faire la fête que d'aller à l'opéra, de renoncer petit à petit à son art.
Alors en fait, effectivement, il y a une deuxième partie dans la vie de Maria Callas. À partir de 59, elle découvre Aristote Onassis. Et Onassis est la promesse de sa vie de femme. C'est quelqu'un qui a travaillé avec une ténacité absolue, qui a aimé un homme qui était quand même beaucoup plus vieux qu'elle, qui n'a pas été vraiment femme incarnée physiquement. Et Onassis, finalement, lui fait découvrir la vraie vie.
Rubrique de l'astronautique, une étoile a disparu. Pierre de Lagarde. Aristote Onassis a enlevé ce matin la Callas. Il est parti dans son avion personnel de Paris et il a atterri à Milan où l'attendait la cantatrice et qui était arrivée à déjouer l'attention des journalistes. Et elle était habillée d'un costume bleu et elle portait son caniche préféré, Mano. Elle a eu juste le temps de monter dans l'appareil du richissime armateur grec et aussitôt ils ont décollé vers Venise.
I'm giving no interview. The only reason you're not doing it is to cut short your trip.
Please.
Are you going to marry Mr. Onassis?
I said don't. I'm not answering any interview. Now stop it.
De tous les scandales provoqués par la Callas, il y a évidemment son mariage avec un Grec comme elle, riche comme elle est célèbre elle-même.
C'est assez extraordinaire. Marié, hein.
Son mariage, excusez-moi, sa liaison, c'est justement. Sa liaison, ouais. Il n'a jamais voulu mariage. Elle le souhaitait ardemment parce qu'elle était amoureuse de lui. Elle l'a rencontré, vous le rappelez, David Lelio, à Venise en 57, et puis ça a été le coup de foudre. Elle va abandonner son mari, Medeghini.
Ah oui, tout à fait. Il a la promesse d'une vie meilleure où elle va enfin s'amuser. En fait, elle embrase le personnage de Violetta dans la Traviata. Voilà. Elle va se griser de fêtes, elle a besoin de vivre enfin sa vie, et c'est vrai qu'Onassis c'est absolument fascinant. On dit que cet homme n'était pas très beau, etc. Mais quel charisme, enfin ce sont les deux Grecs les plus célèbres du monde. Ce type vendait des allumettes dans le port de Buenos Aires en Argentine, et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Il y a une fascination mutuelle, et Onassis c'était un homme qui voulait se payer tous les trophées. Donc quand il découvre que la femme la plus illustre de la Terre est Maria Callas, il se dit je vais séduire Maria Callas. Et ensuite, quand il se rend compte qu'il manque à sa collection de trophées Jackie Kennedy, parce qu'elle est l'autre femme la plus célèbre du monde, il va ensuite aller vers Jackie Kennedy.
Pas sympathique hein, ce personnage. Vous le rappelez, un jour il dit à la Callas, qui chante de moins en moins, qui se produit de moins en moins, soit parce que elle veut vivre enfin une vie de femme qu'elle n'a jamais véritablement vécue, soit parce que tout simplement, eh bien, elle est en train de perdre sa voix. Onassis lui dit, tu n'as plus qu'un sifflet dans la gorge et en plus, il ne marche même plus.
Mais oui, mais c'est ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Callas, à partir du moment où elle aime Onassis, elle ne veut plus chanter, elle veut vivre, elle veut être femme. Mais Onassis n'aime pas la femme, il aime la chanteuse. Donc, ça va être une incompréhension mutuelle.
Et lui, et puis de la quitte, donc vous l'avez dit, pour Jackie Kennedy, elle va en souffrir terriblement, elle se réfugie, elle vit de plus en plus à Paris, qui est sa terre d'élection à ce moment-là, et puis elle se retrouve seule, soit à Paris, soit aux États-Unis, en Amérique, où en 1971, elle accepte de donner des cours de chant à la Juilliard School de New York.
It's true. So, the most important days, first of all, there's a call, amen. Reviving me. Oh,
for the proper phrasing.
Elle è per me. Pietà, pietà, signori.
You should like, be like an animal witnessing this aria. This would be my version now.
Et c'était la Callas en 71 à New York, dans cette école où elle n'a plus pour public que 5 ou 6 ou une dizaine d'élèves. Et vous dites, vous écrivez le plus beau, le plus poignant testament de la Callas.
Oui, parce que son rêve le plus pieux, c'était vraiment de pouvoir transmettre. Les masterclass, pour elle, vont être très importantes, mais par contre, quelques années plus tard, 2 ans avant de mourir, elle va dire, on ne m'appelle plus, on n'a plus besoin de moi, je suis inutile. Et ça, c'est assez terrible, parce qu'elle se rend compte qu'effectivement, la nouvelle génération de chanteurs ne vient plus vers elle, et quand elle dit, je suis inutile, elle dit, je n'ai plus rien à faire dans ce monde. Donc c'est assez terrible, c'est quelqu'un qui n'a vécu finalement que pour l'art, qui a fait une parenthèse par amour, cet amour a fui, et quand elle veut revenir à cet art, ben, il n'y a plus de place pour elle.
C'est la raison pour laquelle on a pensé, bien sûr, certains ont pensé au suicide. En plus, il y a ces mots qu'elle écrit, vous le rappelez, sur son livre de prière, où elle reprend les mots de la Gioconda, suicide, dans ces moments cruels, tu es ma seule issue, mais elle ne met pas le mot suicide, oui. Justement. Et alors, c'est très étrange, parce que immédiatement après sa mort, donc il y a 30 ans, à un jour près, le 16 septembre 1977, eh bien, brusquement, son corps est incinéré, on ne sait même pas très bien ce qu'il est devenu.
Oui, c'est-à-dire que son corps a été incinéré et les cendres ont disparu. Et ce n'est que 2 jours après qu'on a retrouvé l'urne et qu'on a identifié cette urne comme l'urne des cendres de Maria Callas. Et ces cendres ont ensuite été dispersées dans la mer Égée.
Mais finalement, au Père Lachaise d'abord, puis ensuite,
dans la mer Égée. Mais en fait, on ne saura jamais si cette urne qu'on a retrouvée dans une allée 2 jours après l'incinération était véritablement les cendres de Maria Callas. On peut tout à fait imaginer qu'un fan fou furieux a dérobé l'urne en question, l'a gardée, ça se trouve la conserve encore aujourd'hui, et a remis à la place une autre urne. Donc ça, c'est un peu un mystère qui demeure.
Parce qu'on a parlé d'un testament que personne n'a jamais vu, dans lequel elle avait demandé à être incinérée. Or, les témoins ont disparu. Vous dites que les domestiques de la Callas, qui étaient avec elle à Paris, on les a jamais retrouvés.
On les a jamais retrouvés, ils n'ont jamais parlé. C'est vrai que toutes les circonstances de sa mort sont assez troubles. On peut pas imaginer qu'il y ait eu vraiment un suicide actif. Elle prenait des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. depuis des années. Donc il y a eu une accoutumance qui sans doute a provoquer son problème cardiaque et son problème d'embolie pulmonaire, mais on n'a pas véritablement de verdict médical. Aucune autopsie n'a été faite, et c'est sans doute pour ça aussi que le corps a été incinéré, pour qu'on ne fasse pas d'autopsie. Enfin, tout ça est assez trouble.
Et la fortune immense qu'elle avait, parce qu'on l'a entendu, elle gagnait énormément d'argent, oui. En tout cas, sinon à la fin de sa vie, puisqu'elle ne chantait plus, ne se produisait plus, mais pendant ces années fastes.
Les domestiques, justement, qui l'ont accompagnée vraiment dans sa fin de vie, ont hérité, et puis aussi sa famille, sa sœur, en fait.
Qu'elle
n'aimait pas du tout, bien sûr. Meneghini également. Enfin, ça a été très trouble, la succession. Ses biens ont été vendus aux enchères une première fois, 1 an après sa disparition. Deux fans surtout ont acheté beaucoup de choses, et les fans ont revendu, il y a 2-3 ans, les objets de collection de la Callas.
Et la succession, c'est évidemment aussi ce qui nous reste d'elle. On a le sentiment, quand on vous lit, quand on lit aussi beaucoup d'autres publications, en ce moment, quand on voit à quel point on parle de la Callas beaucoup plus que de n'importe quelle autre cantatrice, que c'était moins une cantatrice, je ne sais pas si on peut considérer que c'était la plus grande dans ce domaine, mais qu'une vie.
Oui, je pense que la vie de la Callas a alimenté son art, et je pense que c'est ce qui fait de la Callas une artiste dramatique absolue. Vraiment, à cet égard, j'encourage les gens même à regarder sur Arte mercredi. Il y a un film absolument magnifique.
On a passé quelques extraits.
Voilà, film de Philippe Colli qui passe mercredi soir sur Arte, qui sort également en DVD, et qui est un film extraordinaire où on comprend justement cette vie absolument dramatique qui va alimenter l'art. Parce que je pense que l'artiste n'aurait pas été ce qu'elle a été s'il n'y avait pas eu cette femme extraordinaire, hautement charismatique derrière.
Et dont il reste autre chose justement qu'une vie, quand même, sur le plan musical aujourd'hui, est-ce qu'elle a des successeurs?
Les successeurs de la Callas, c'est assez difficile, mais qui ont autant d'énergie, autant de... Je pense pas qu'on puisse... C'est comme quand on nous demande s'il y a une héritière à Piaf, je pense que c'est très difficile. Elle est immortelle et unique.
La Callas avec laquelle on se quitte, David Lelio, avec une de ses plus belles, un des opéras qu'elle préférait, la Tosca de Puccini, au début de l'acte 2, quand elle chante ceci, qui convient parfaitement à ce qu'était la Callas: Vissi d'arte, vissi d'amore, j'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour.
Je rappelle que mon invité est David Leello et l'auteur d'une biographie de Maria Callas qui vient d'être rééditée en poche aux éditions Payot dans la collection Petite Bibliothèque Payot. À lire aussi parmi les très nombreux livres qui sortent en ce moment, La Callas d'Ève Ruggieri qui vient de paraître aux éditions Michel Lafond et Maria Callas par Henri-Jean Servin, un beau livre illustré de nombreuses photos publiées chez Albin Michel. Vous avez pu entendre plusieurs extraits de Maria Callas Assoluta, un excellent documentaire, vous l'avez dit, David Delelio, qui de Philippe Colli, qui sera diffusé mercredi prochain sur Arte à 20h40 et qui est déjà disponible en DVD aux éditions MK2, ainsi qu'un entretien de Maria Callas qui vient d'être édité en CD par l'INA et Radio France. Et puis je rappelle que vous pouvez retrouver tout à l'heure à 16h05 sur France Inter, La Callas dans l'émission de Frédéric Lodéon. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Mainviel et Dimitri Gronoff, documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Sophie Gidry, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un tout autre sujet, puisqu'avec Pierre Milza, nous parlerons de Voltaire.
À l'occasion de ses 20 ans, France Info vous invite à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, mardi 18 septembre. Découvrez en avant-première ce musée unique. Les invitations sont à retirer dès maintenant dans le grand hall de Radio France, dans la limite des places disponibles.
Au cours du premier semestre 2007, CNP Assurance a réalisé un bénéfice net courant hors plus-value de 392 millions d'euros, en hausse de près de 12% à données comparables. CNP Assurance continue de progresser en créant de la valeur pour ses actionnaires. Retrouvez toutes les informations sur cnp.fr ou appelez gratuitement le 0800 544 544. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard et sa tête au carré aujourd'hui, une sociologie du rugby, mais tout de suite sur France Inter, il est 14h15. Les informations, Claire Servageon, bonjour.
Bonjour. François Hollande demande un débat au Parlement sur l'Iran. Les propos tenus hier soir par Bernard Kouchner provoquent des réactions dans le monde. Le chef de la diplomatie française a en effet déclaré qu'il fallait s'attendre au pire, c'est-à-dire à la guerre, compte tenu du dossier nucléaire iranien. Israël salue les propos de Bernard Kouchner alors que l'agence iranienne IRNA accuse le ministre des Affaires étrangères et Nicolas Sarkozy d'extrémisme dans ce dossier. 89 morts et 41 rescapés, dernier bilan de l'accident d'avion qui s'est produit sur l'aéroport de Phuket dans le sud de la Thaïlande. Le quai